9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine, merci de votre fidélité hebdomadaire et le plaisir de recevoir ce dimanche matin deux femmes qui nous parleront tout au long de cette émission, ce dimanche matin de Palestine. Bonjour Nora Rachoui.
Nora Rachmaoui, bonjour Samia et bonjour les auditeurs de Beurre FM, bonjour à tous.
Bonjour à vous Rimja.
Bonjour.
C'est une première pour vous d'être à Beurre FM.
Oui.
Nora Rachmaoui a l'habitude de venir à Beurre FM nous évoquer, témoigner sur la situation en Palestine, mais tout va bien se passer Rimja, ne vous inquiétez pas.
Oh, je ne suis pas inquiète.
Très bien. Parler de Palestine, c'est parler de ce qui s'est passé ce 7 octobre 2023. La guerre entre le Hamas et Israël est déclenchée. 100 jours plus tard, plus de 100 jours plus tard d'ailleurs, le peuple palestinien compte ses morts. Plus de 30 000 Palestiniens et Palestiniennes sont morts à Gaza. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués sous les bombes, les missiles de l'armée israélienne. Vous allez nous en parler tout au long de cette émission l'une et l'autre. Et je vais tout de suite, parce que vous êtes des femmes qui témoignez par engagement au soutien au peuple palestinien. Je dis soutien, mais on pourrait presque dire au peuple palestinien tout court, on n'a pas à les soutenir, il faut être à leur côté dans le sens de d'une dignité et puis d'une justice surtout. Je me tourne vers vous, Nora Rachmaoui, vous êtes palestinienne et ce combat palestinien, c'est le combat d'une vie aussi.
Absolument. J'ai pas du tout envie de commencer en disant je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec vous que c'est effectivement c'est un combat d'une vie. Oui, je commence par ce qui est positif parce que c'est toujours il faut toujours garder l'espoir d'arriver un jour à ce que on sorte de cette situation. Mais j'ai envie de revenir sur d'abord le 7 octobre. Le 7 octobre non, ça a pas commencé le 7 octobre.
Bien sûr.
Ça a commencé bien avant. Mais là personne n'avait parlé de la Palestine. La Palestine était dans les oubliettes. Je sais pas si vous vous souvenez juste l'année dernière. On était en train de faire la normalisation avec l'occupation israélienne. Les pays arabes commençaient à accepter. Alors qu'il y avait déjà un plan en 88, un plan saoudien pour dire, OK, on fait la normalisation avec Israël, mais à condition d'une reconnaissance d'un État palestinien. Ça, c'est tombé à l'eau. Personne dans la communauté internationale, alors qu'on nous a demandé les accords d'Oslo et tout, on nous a demandé de faire des concessions, on a fait toutes les concessions nécessaires et à la fin, on nous a laissé tomber. Donc, le 7 octobre, avant le 7 octobre, il y avait aussi...
Mais il y a toute une histoire, bien évidemment.
Depuis 48, toute l'occupation, tous les massacres qu'il y a eu, toutes les déportations, les prisons, les assassinats, tout ça. Mais y compris à Gaza, pour parler que de Gaza, là, c'est parce qu'on parle de 7 octobre, on le relie à Gaza, alors que c'est toute la Palestine qui est concernée, parce qu'on oublie ce qui se passe en Cisjordanie aussi. Le 7 octobre, il y avait les 17 ans de blocus de la bande de Gaza. 17 ans où on a enfermé des gens comme dans une cocotte minute, parce qu'il y en a qui disent que c'est à ciel ouvert. Non, c'était une prison pas à ciel ouvert, ni ciel, ni mer, ni terre. Tout était fermé. Les gens, ils étaient enfermés pendant 17 ans. On les a laissés mourir. Et après, quand les gens... Plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fonce. On n'a pas de recul. On n'a pas d'objectif. On n'a pas de perspective. Les jeunes là-bas, les gens là-bas, ils n'avaient aucune perspective de vie. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, d'abord, ce n'est pas une guerre. Parce que ce n'est pas une guerre. C'est une attaque meurtrière d'une armée, de la plus grande armée de monde, pratiquement, avec tous les moyens des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la communauté européenne, de l'Allemagne, de tout le monde. Qui soutiennent cette armée d'occupation, une armée meurtrière, qu'on appelle, les Israéliens, ils se plaisent à dire que c'est l'armée la plus morale du monde. Elle est où, la morale, quand on assassine des enfants? La banque des victimes en Palestine, plus de 70%, c'est des femmes et des enfants. Mmh. Et aujourd'hui, on nous parle de guerre? Non, c'est pas une guerre. C'est un génocide de peuple palestinien, et c'est quelque chose qui, au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, si j'ai envie de dire, bien sûr, que les auditeurs de Beurre FM, je pense qu'ils seront d'accord avec moi parce que j'essaie la sympathie et la solidarité des peuples. Et moi, j'en appelle aux brigades internationales, de solidarité avec la Palestine, avec ses enfants et ses femmes, parce qu'on parle de 30 000 morts. Non, ce n'est pas 30 000 morts, c'est plus de 100 000 morts. Parce qu'il y a tous ceux qui sont sous les décombres qu'on n'a pas encore découverts et tous ceux qui vont mourir des maladies et des amputations et des blessures.
Bien sûr. On reviendra dans une deuxième partie sur cette solidarité internationale. internationale que vous venez d'évoquer, Nora Rachmani. Je me tourne vers vous, Rim Javou, vous êtes dans cette solidarité, puisque je reprends le mot qui vient d'être dit, avec le peuple palestinien depuis bien bien longtemps, vous m'avez dit en préparant notre rencontre.
Oui, effectivement. Alors, donc moi j'ai 59 ans et je milite vraiment très ardemment pour la cause palestinienne depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait des années de militantisme, entre autres. Mais vraiment, effectivement, la Palestine, je l'ai dans la peau. On ne peut pas dire ça autrement. Je me suis rendue en Cisjordanie, où j'ai été bénévole humanitaire, comme victimologue. Voilà. Et ce que j'y ai vu là-bas m'a encore plus profondément donné envie de me battre à côté de mes frères et de mes sœurs palestiniens. Parce que c'est de... Enfin, je pense que si on n'a pas été là-bas, on ne peut pas comprendre la cause palestinienne. Clairement, on peut même pas mesurer l'ampleur des dégâts. Moi, j'ai vu des gens se faire spolier de leur maison. J'étais assise à la terrasse d'un café, d'une maison, pardon, à Khalil, à Hébron, avec mon ami Habiba, et on s'est retrouvé avec des couches pleines de voilà d'excréments, voilà que les colons nous jetaient dessus. J'ai vu le fils d'un ami à moi en Cisjordanie, à Beit Jalla, se faire tirer dessus. Enfin, je veux dire, quand on a été là-bas et qu'on a vu de ses yeux vus, on revient, on est franchement.
D'autant plus.
Donc voilà. Combattante. Effectivement, j'ai presque envie d'en pleurer. Là, j'ai les larmes aux yeux.
Je vois bien que vous avez de l'émotion, mais il y a de l'émotion aussi au travers de ce que nous soulignait Nara Rachmawi, parce que ce peuple palestinien est meurtri. Et effectivement, c'est une disparition. C'est tout ce que vous avez évoqué. Quand je rappelais tout à l'heure qu'effectivement on commence cette émission, je le dis sans maladresse, autour du 7 octobre, parce que l'actualité est forte, parce que mon voisin de palier, il veut pas entendre parler de la Palestine avant. Et puis le 7 octobre, ça lui arrive dessus. Il faut qu'il entende ce que veut dire ce 7 octobre pour le peuple palestinien. Et c'est de ça qu'il est question dans une rencontre comme aujourd'hui à Beurre FM. Ce qu'on pourrait ne pas entendre ailleurs aussi dans les médias de votre histoire, madame, et de cet engagement qu'on peut avoir. Il y a eu des semaines de manifestations pour le peuple palestinien, nombreux dans tout ce pays. Ça veut dire qu'il y a quand même une force aussi aujourd'hui aux côtés du peuple palestinien, et c'est ça qui est intéressant à entendre. Après, une fois que j'ai introduit, c'est presque une question à nouveau vers vous, Nora Rachmawi. Est-ce que aujourd'hui, dans cette détermination que vous avez à dénoncer effectivement ce qui se passe aujourd'hui en direction du peuple palestinien, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On est à 4 mois là de cette guerre. Moi, je dis cette guerre. Pardonnez-moi. Vous dites que c'est pas le mot, mais après, quand il y a un peuple et un autre, quand il y a les missiles, quand il y a les bombes, quand il y a des immeubles, un pays entier qui s'écroule, ça s'appelle la guerre, aussi violemment que ça puisse être ce mot, mais le dire autrement alors.
Alors, moi j'ai envie de revenir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure, Samia, c'est justice. Moi, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est la justice. Et l'injustice aujourd'hui, en l'occurrence, c'est l'injustice envers mon peuple, envers le peuple palestinien. Et l'injustice tellement flagrante, parce que j'ai entendu que des soutiens à ce gouvernement d'extrême droite, fascisante en Israël. On parle ici, en France, en général, dès qu'on parle d'extrême droite, tout le monde sait ce que ça veut dire. Nous, on sait ici en France, parce qu'en France aussi, il y a eu de la résistance. Lors de l'occupation nazie, la France s'est soulevée, peut-être pas dans son ensemble, mais la France s'est soulevée, et c'est ça qui a marqué l'histoire de la France, c'est la résistance. Durant toute l'histoire, moi, si j'ai choisi de venir en France, c'est parce que c'est le pays de la Commune de Paris, c'est la Révolution française, c'est Voltaire, c'est les Lumières, c'est tous ces gens-là, c'est toute cette histoire de la France, de la Commune de Paris, c'est vraiment mon moteur. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on abandonne, alors que c'est une cause, vraiment c'est une cause, il n'y a pas plus simple. Il y a un peuple qui a été chassé de chez lui, il y a un peuple qui est meurtri, qui est assassiné, et dès qu'il se révolte, on dit c'est des terroristes. Non, c'est pas des terroristes, c'est humain. Vous êtes dans le métro, quelqu'un vous bouscule, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez, vous avez envie de lui mettre votre main dans la figure. Ben, ce qui est une réaction pas sympa, mais c'est une réaction normale. Quand on prend des coups, on a envie de réagir. Alors nous, on a essayé de tenir, ça fait 75 ans. Moi, j'ai pratiquement l'âge de la Nakba. Dans deux jours, je vais avoir 74 ans. Donc vous voyez, je suis née dans cette histoire. Et cette histoire me parle parce que c'est à chaque fois que je vois l'injustice. Aujourd'hui, la France soutient des djihadistes français qui vont aller faire la guerre et qui vont faire la guerre en Palestine. Alors vous appelez ça guerre? Non, c'est pas une guerre. Une guerre, c'est entre deux pays. La Palestine, là, la guerre qui se passe à Gaza, ce qui se passe à Gaza, c'est une guerre contre un peuple. Ce qui se passe en Cisjordanie, c'est une guerre contre un peuple. D'accord? Il y a une organisation politique. Hamas, c'est une organisation politique. C'est une organisation de résistance. Mais c'est pas un gouvernement. C'est un pays. C'est pas un pays. Donc c'est pas une guerre. À ce niveau-là, on peut pas appeler ça une guerre. On peut appeler ça une armée d'occupation qui rentre, parce que la résistance, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Les coups, ils sont rendus sur le territoire de la bande de Gaza, ce qu'on appelait la bande de Gaza, où l'armée israélienne s'est retirée. Sauf que l'armée israélienne, elle est en train d'attaquer et d'assassiner sur notre terre, sur la terre qui soi-disant était indépendante.
Mais cette terre dit la Palestine aujourd'hui et la bande de Gaza, du point de vue du vocabulaire ou en tout cas d'une réalité du peuple palestinien à être sur un territoire.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe à Ramallah quand l'armée israélienne, l'armée d'occupation, là ce matin, moi je suis de Beth Sahour, à côté de Bethléem, mais ma ville de vie, c'est Jéricho. Là ce matin, j'apprends que l'armée d'occupation israélienne est rentrée dans Jéricho cette nuit, comme toutes les nuits. Ça fait des mois que ça dure. Et donc là, c'est quoi? C'est une guerre, ça, ce qui se passe à Jéricho? Alors que normalement, les accords de Oslo, c'est Gaza et Jéricho d'abord. Alors ni Gaza ni Jéricho sont finis avec l'occupation. Ils sont là, l'occupation. Elle est là tous les jours. Elle assassine tous les jours, que ce soit à Jéricho ou à Gaza. Bien sûr, la force de frappe de l'armée d'occupation, elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus meurtrière. C'est vraiment un génocide ce qui se passe à Gaza. La Cisjordanie, à force de faire tous les assassinats, tous les destructions de maisons, les arrestations. Là, cette nuit, ils ont arrêté 50 personnes. 50 personnes plus, là, on en est pratiquement à 10 000 Palestiniens kidnappés, parce que j'appelle pas ça des prisonniers, ils sont kidnappés sur le territoire d'Oslo, parce que, appelons-le, parce que quand même tout le monde a oublié Oslo, sauf que la France, elle nous a envoyés pour accepter les accords d'Oslo. Et là, je m'adresse au gouvernement français. On nous a obligés à accepter les accords d'Oslo. On a cédé plus de 80% de la terre de la Palestine contre la paix. On a dit la paix contre la terre. Aujourd'hui, on n'a ni paix ni terre.
Votre colère et votre détermination, Nora Ramchaoui, on va vous retrouver dans un instant après une pause et on va poursuivre cet engagement et cette détermination que vous avez l'une et l'autre. Je rappelle que nous parlons ce dimanche matin à Voix au Chapitre de la situation en Palestine, du peuple palestinien. Et j'ai le plaisir de recevoir Nora Ramchaoui.
Hashmaoui,
pardonnez-moi, faut que j'y arrive. Et qui est palestinienne, et Rimja, qui est une militante depuis bien bien longtemps pour la cause palestinienne. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nora Ramchaoui et Rimja, qui sont deux femmes, l'une est palestinienne, l'autre est une militante de la cause palestinienne. Nous avons évoqué dans une première partie de notre rencontre toute une partie historique fondamentale que nous évoquait Nora à propos de la construction de l'histoire de la Palestine. Justement, c'était fort intéressant parce que ça donne à comprendre la situation aujourd'hui, ce que vous avez évoqué. Bien évidemment que l'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. J'y reviens puisque c'était ce que vous aviez souligné. C'était important de le rappeler, mais à cause de ce 7 octobre, il y a quand même une mobilisation dans le monde, plus ou moins d'ailleurs, aux côtés du peuple palestinien. Et en France, il va se passer quand même quelque chose d'important, puisque je me tourne vers vous, Rimja, parce que vous êtes dans cette initiative, l'une et l'autre en tout cas, oui, d'une marche qui va être une marche, un peu, vous l'avez rappelé, comme était la marche pour l'égalité contre le racisme, une marche qui partira de Paris et qui va aller, elle, jusque Bruxelles. Rappelez-nous un peu comment est née cette volonté de construire pas à pas, ville à ville surtout, au travers la France et jusqu'à l'Europe, la capitale de l'Europe qui est Bruxelles plutôt, cette volonté d'ancrer ce combat pour le peuple palestinien.
Je me suis fait entourer de personnes qui étaient fatiguées de voir ces boucheries sur les réseaux sociaux, cette boucherie à Gaza, mais également en Cisjordanie, parce qu'on parle beaucoup de Gaza, mais penser aux Cisjordaniens également. Et donc, face à toutes ces horreurs, On fait des rencontres, hein, en manif, déclarées, pas déclarées d'ailleurs, on fait des rencontres. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer une marche citoyenne, parce que ben, on en avait assez de voir ces horreurs, et on en avait également assez de voir que rien, en fait, ne passait sur les chaînes... sur les chaînes européennes, BFM, CNews, comme s'il ne se passait rien en fait en Palestine. Donc on s'est dit non, c'est pas possible quoi. Et puis la complicité des pays européens, le soutien total des États-Unis, pour ne pas dire belligérants, hein, parce qu'ils sont partie prenante dans le conflit. Et là, là j'ai dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on aille à Bruxelles. On n'est pas entendu dans la rue, on n'est pas entendu en manif, on n'est pas entendu dans les rassemblements. Ils ne veulent pas nous montrer ce qui se passe là-bas. En tout cas, moi, je vois, puisque je suis très connectée sur les chaînes arabes. Mais bon, voilà. Donc, je crois qu'il va falloir que le monde sache. Et il va falloir que l'Europe se positionne face à ce conflit. Donc, avec des revendications. Donc, on s'est retrouvés en petit collectif. Et puis, le petit collectif est devenu un moyen collectif. Et du moyen, il est devenu un grand collectif. C'est en train de prendre de l'ampleur. Je suis contente. Et donc on a des revendications, donc on va marcher pendant 10 jours jusqu'au Conseil européen, avec l'espoir d'être reçu au Parlement européen, puisque il y a de grandes chances qu'on ne soit pas reçu le 1er février au Conseil européen, puisqu'il y a le sommet des dirigeants, et pour porter nos revendications et surtout porter les revendications des Palestiniens, quoi. Voilà.
La première revendication, c'est un cessez-le-feu immédiat. Je me tourne vers vous. Il est temps ?
Oui, il est plus que temps.
Plus que
il
temps,
est plus
bien
que
sûr.
Temps à cesser le feu, ne serait-ce que pour que les gens puissent enterrer leurs morts, ne serait-ce que ça. Et là, aujourd'hui, si la communauté internationale ne réagit pas, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un désespoir total. Qu'est-ce qu'ils veulent massacrer ? De toute façon, il y a eu des dirigeants israéliens, tout le monde a entendu, et là, personne n'a trouvé quelque chose à dire. Je n'ai pas entendu M. Macron protester quand le ministre de soi-disant de patrimoine israélien, je ne vais pas prononcer son nom, a dit qu'il fallait lancer une bombe atomique sur la bande de Gaza. Quand on entend que nous sommes des animaux, les Palestiniens, quand on entend qu'il faut vraiment éradiquer le peuple palestinien, et puis que la communauté internationale nous laisse faire et nous laisse comme ça, je ne veux pas critiquer le soutien que le monde dit libre, entre 15 000 guillemets, a apporté au peuple ukrainien, mais je vois les deux poids, deux mesures. Ce matin, j'ai entendu sur France Inter que des renforts militaires allaient être envoyés en Ukraine.
En Ukraine, ouais.
J'ai pas entendu qu'on allait envoyer pas des renforts militaires, je demande pas tant que ça.
Du renfort médical ?
Mais renfort médical, ou ben même oui. À manger, à boire. Vous vous rendez compte, l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, Gaza, plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseaux sociaux, plus d'Internet, plus de communication, plus de médecins, plus de médical, plus aucun hôpital. Parce qu'au début, quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça c'est des choses qui marquent. Vous vous rappelez quand il y a eu, au début, un des premiers hôpitaux qui a été touché, c'était l'hôpital orthodoxe. Il se trouve que je suis palestinienne de famille orthodoxe, chrétienne orthodoxe. Donc, l'église et l'hôpital à Gaza, j'ai de la famille qui sont là-bas. Et on a entendu que l'hôpital orthodoxe a été bombardé. Qu'est-ce qu'ils ont eu dit ? Ah non, c'est pas Israël qui a bombardé. C'est les Palestiniens qui ont lancé. C'est une bombe, c'est une explosion palestinienne. Parce que les Israéliens, comme ils sont très moraux, le gouvernement israélien et l'armée israélienne ne bombardera jamais d'hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul hôpital en Palestine, à Gaza, qui existe encore. Plus un seul hôpital. Les médecins, ils sont arrêtés. Les chirurgiens, les directeurs d'hôpitaux, ils sont arrêtés. C'est ça la justice. C'est ça la justice internationale.
Vous parlez de justice, il y a aussi des avocats qui sont arrêtés. Il y a aussi toute cette condamnation.
Tous les journalistes là, parce qu'on est chez vous en tant que journaliste. Combien de journalistes ils ont été assassinés? Là, aujourd'hui, je crois qu'ils sont à plus de 120. 120 journalistes. Parce qu'ils sont les seuls journalistes qui peuvent travailler là-bas et qui sont autorisés, c'est les Palestiniens. Ouais. Tout le monde a entendu parler d'Oua El Dahdou. Là, aujourd'hui, j'ai appris qu'il est parti en Égypte pour se faire soigner parce que, de toute façon, il n'en peut plus. Et il y a des journalistes qui n'en peuvent plus. Ils n'arrivent même pas à aller se laver. Ils n'arrivent même pas aller voir leur famille. Dahdou, il a perdu toute sa famille. Et donc, ça, personne ne trouve rien à dire. C'est normal.
Nohar Hamshaoui, vous êtes aux côtés de Rimja, là, dans ce studio, pour parler de la Palestine. Elle a évoqué cette marche pour le droit à la vie des Palestiniens et Palestiniennes contre l'impunité du gouvernement israélien. Je lis là le texte d'appel à cette mobilisation que vous organisez, qui s'appelle Marchons pour la Palestine. Vous allez marcher, vous aussi, bien sûr.
Je vais absolument marcher, parce que moi, quand Rim m'a appelé, j'étais comme beaucoup de monde, des gens libres, des gens pour la liberté et pris de liberté, on se trouvait impuissants face à ce qui se passe, face à ces massacres, face à ce génocide. Et l'idée de marcher, je trouvais que c'était bien parce que c'est dans la continuité, c'est-à-dire on transmet des choses et on apporte des choses et on passe d'une étape à l'autre. Ça veut dire on avance, on n'est pas statique, tout seul devant son écran en train de regarder les massacres qui se passent. Jusqu'à là, c'était ça que je faisais, aller dans les manifestations, mais ça suffisait pas, on avait envie de faire quelque chose. Et là, j'ai trouvé que l'idée, elle était très bonne et j'ai adhéré tout de suite à son idée. Et on va marcher, effectivement, je vais marcher malgré que j'ai des problèmes de dos, des problèmes de froid, etc. Mais marcher, c'est parce qu'on a l'espoir de se faire entendre.
J'ai rappelé que votre première exigence dans cet appel est le cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, mais vous avez d'autres aussi revendications. Vous nous les rappelez, Rimja?
Oui, alors, cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, l'arrêt de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid et le droit au retour des réfugiés palestiniens sur leur terre, la fin des assassinats et des arrestations arbitraires en Palestine occupée, la protection du peuple palestinien. Une urgence humanitaire sans restriction à la hauteur des besoins sur place et des sanctions politiques et économiques envers le gouvernement israélien.
Voilà des revendications fortes qui sont effectivement porteuses qui vont traverser la France, puisque on va rappeler que la feuille de route de cette marche palestinienne là que j'ai sous les yeux, elle va traverser la France, hein, pour aller jusqu'à Bruxelles. Enfin, une partie de vous allez peut-être pas nous donner toutes les étapes, mais on va rappeler que ça part bientôt déjà.
Oui, alors nous partons donc il y a un rassemblement samedi.
Samedi 20 janvier.
Voilà, c'est bien ça. C'est le départ. À 11h, place de la République. Et puis après, donc il y aura plusieurs villes étapes. Donc on fera.
La manif part à 13h.
Et là, voilà, les marcheurs permanents partiront donc à 13h de la place de la République en direction d'Aubervilliers, puis de la Courneuve, puis de Stein. Et puis donc il y a plusieurs villes étapes. Mais les personnes pourront suivre en fait les marcheurs, puisqu'on a un compte Instagram, donc vous pourrez suivre en direct un petit peu nos aventures, j'ai envie de dire.
Alors moi j'avais envie de, pour compléter ce que vous dites, si vous le voulez bien, j'avais envie de savoir qui étaient les marcheurs et comment étaient composés dans cette organisation de la marche. Il y a des collectifs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et dans ce collectif il y a une diversité d'associations, d'organisations. Comment ça se passe?
Il y a une diversité en fait de personnes issues de milieux différents, d'organisations différentes, de cultures différentes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur lorsque j'ai constitué le collectif. Je tenais vraiment à ce que il y ait de tout, quoi, parce que je pense qu'on est tous concernés. Si on est un minimum humain, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe en Palestine. C'est juste pas possible.
Par exemple, dans le collectif, il y a l'UJFP.
Effectivement, qui est et TSEDEC.
Ouais. Et rappelez-nous, c'est qui ces organismes-là, pour les auditeurs, les auditrices, qui entendent un intitulé, c'est l'Union.
Des Juifs pour la paix.
Des Juifs pour la paix.
Effectivement.
C'est important que vous ayez aussi ce lien avec l'Union des Juifs pour la paix. Ça veut dire, le dialogue est possible?
Okay. Alors, c'est l'Union juive pour la paix, c'est pas en tant que juif, parce que c'est pas une guerre de religion. Il faut rappeler ça.
Bah, c'est une guerre de colonisation.
C'est une guerre d'occupation, de colonisation. Et donc, du coup, on veut pas. C'est simplement des citoyens du monde. Ils s'appellent leur organisation, parce que de toute façon, le CRIF, pour ne parler que d'eux, ils disent qu'ils représentent tous les juifs de France. C'est pas vrai, parce que l'Union juive française pour la paix aussi représente une fraction assez importante quand même de la population française de culture juive. Parce que on va pas parler de religion du tout, parce qu'ils ont essayé au nom de la religion de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui en Palestine. Et j'insiste là-dessus, moi je suis pour un État palestinien démocratique et laïque. laïque, parce que c'est la seule chose qui peut nous sortir de ce marasme et de ce conflit et de cette vraiment de ce génocide, appelons-le comme il s'appelle. Il s'appelle génocide, ce qui se passe aujourd'hui.
Rimja, dans les permanents, les marcheurs permanents, il y a une diversité, on vient de l'entendre, mais il y a aussi, même dans les âges aussi, on retrouve des jeunes, des moins jeunes.
La tranche d'âge, c'est je crois que la plus jeune, c'est Liu d'ailleurs, la plus jeune, elle doit, je ne me rappelle plus quel âge elle a Liu, une vingtaine d'années, ouais. 20, 22 ans, et le plus vieux, les plus vieux, je dirais, les plus vieux,
c'est moi,
c'est toi et Bertrand. Voilà. Toi et Bertrand.
Je suis plus vieille que Bertrand.
Non, mais vous êtes si jeune et déterminée,
absolument.
En tout cas, c'est très intéressant de vous entendre dans cette diversité de paroles l'une et l'autre, et pour parler d'une même cause. Effectivement, c'est la cause palestinienne. On va vous retrouver dans un instant pour poursuivre sur la question internationale et la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Je rappelle que vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Marchons pour la Palestine, c'est le rendez-vous de ce dimanche matin sur Voix au chapitre. Et nous évoquons la situation en Palestine avec Rimja et avec Nora Ramchaoui, qui est palestinienne et qui nous a parlé avec beaucoup de détermination, justement, la cause palestinienne et ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et faire aujourd'hui, c'est cette marche que vous organisez à partir de ce 20 janvier,
oui.
Qui partira de Paris, place de la République, vous l'avez rappelé, et qui va traverser...
À
13h, et qui va traverser une partie de la France, on va le dire comme ça, pour en tout cas rejoindre l'Europe, parce que c'est important, vous l'avez souligné, que ça se passe du côté du Parlement européen à Bruxelles. Parlons de cette solidarité internationale. Que pourriez-vous en attendre aujourd'hui, Noah Ramchaoui, parce que on a tout entendu qu'effectivement, il y a des sursauts comme ça de solidarité, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de vraie prise en compte de la cause palestinienne. Il y a toujours ces hésitations, ces reculs, on fait semblant de dire on va aider, on fait de l'humanitaire, mais on veut de la politique, je pense.
Non, on ne demande pas l'humanitaire ni la charité,
on demande de la juste politique, le droit.
Oui. Le droit. Combien de résolutions internationales à l'ONU ont été prises pour la défense des Palestiniens, ne serait-ce que le droit au retour? C'est un des premiers. Le droit au retour, deux États, un État, trois États, 15 000 États, mais toutes ces résolutions qu'il y a eu à l'ONU, aucune n'a été respectée. Aucune. Nous, on demande tout simplement le respect de droit. Et aujourd'hui, on nous dit oui, mais vous exigez, vous êtes... faites appliquer. Pourquoi vous ne faites pas appliquer les résolutions que vous-même vous avez votées? Je ne sais pas, je vais rappeler quand même une date historique, parce qu'à chaque fois on nous dit vous emportez le conflit en France. Non, le conflit, il est parti de la France. En 1914, quand il y a eu les accords Sykes-Picot, la France et l'Angleterre, ils ont divisé la Palestine et ils ont fait le partage aujourd'hui, actuel. 1917, l'Angleterre a fait la promesse Balfour qui est pour la création d'un État, d'un foyer juif. C'était même pas un État, c'était un foyer juif. Donc tout ça, c'est un problème qui nous est arrivé par l'Occident. Aujourd'hui, nous, on paye toutes les saloperies qu'il y a eu, parce que j'appelle ça des saloperies, les massacres, les pogroms, l'Holocauste qu'il y a eu contre les Juifs en Allemagne, rappelons aussi que le nazisme ne s'est pas attaqué simplement aux Juifs, il a commencé par s'attaquer aux militants communistes et socialistes, et à toutes les diversités. Voilà. Et donc, du coup, le fascisme, ce qui est aujourd'hui en train de se construire en Israël, ça va pas toucher simplement les Palestiniens, ça va toucher aussi la société israélienne. On nous dit tout le peuple israélien derrière le gouvernement, c'est pas vrai.
Non, il y a un courant israélien qui est aux côtés, qui dénonce l'extrême droite israélienne.
Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a deux jours, il y a Gantz même qui s'est mis dans les rassemblements à Tel Aviv pour demander le retour des otages et la démission de Netanyahou. Alors, c'est aujourd'hui, la société israélienne, elle veut se montrer comme une espèce de bloc, parce que la société, la communauté internationale soutient ce gouvernement complètement, qui va, alors que toute cette histoire-là, c'est aussi une façon de Netanyahou pour échapper à la prison, pour échapper à la condamnation. Il est en train de massacrer le peuple palestinien et d'amener son peuple, la population israélienne, au casse-pipe. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose. Il faut une intervention internationale. Il faut une solidarité internationale. Et je salue aujourd'hui l'intervention de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Chili. L'Afrique du Sud qui est à la haie, là, et qui, et pour la première fois, ça, c'est vraiment, ça, c'est un tournant. Ça, c'est le début de retournement de l'opinion publique. C'est la première fois que le gouvernement israélien est obligé d'aller à la haie pour se justifier. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'ils ont dit. J'ai entendu le porte-parole donc israélien à la haie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit génocide. Ben, c'est nous, le peuple d'Israël, qui sommes victimes de génocide. Vous vous rendez compte? Oser dire ça à la face du monde? Aujourd'hui, il y a une solidarité effectivement en Afrique du Sud, au Chili et en France, il y a quand même la démarche de Maître Gilles Devers où il a réuni plus de 600 avocats en France pour défendre le peuple palestinien et la Palestine dans son ensemble.
Sur cette question de mobilisation en France, quand il y avait des manifestations plusieurs samedis de suite, hein, pour la cause palestinienne, pour le peuple palestinien. Il y avait quand même en Europe, en Angleterre, à Londres, à Barcelone, mais des milliers et des milliers de personnes.
À Washington,
j'allais le dire, aux États-Unis aussi. Il y a quand même une mobilisation citoyenne qui est importante, et ça aussi, parce que elle peut faire basculer aussi la mobilisation Absolument. Citoyenne. Pour ça que, je me retourne à nouveau vers vous, Rimja, à propos de cette marche. La marche, elle est citoyenne. Elle est citoyenne, politique. Mais à chaque étape, voilà, peut-être que de ces marcheurs historiques, il va y avoir évidemment
on espère que la vague va grossir, voilà, grossir. Et ce que je veux, c'est un tsunami devant le Conseil européen et devant le Parlement européen. Parce que c'est juste pas possible qu'il y ait ce droit à géométrie variable. Ce n'est pas possible qu'une entité terroriste, moi je l'appelle entité terroriste, hein, et je pèse mes mots, puisse bombarder impunément avec la complicité de la plus grande puissance du monde, les États-Unis, au phosphore blanc, des hôpitaux, des écoles, tuer des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes invalides, sans que le monde ne réagisse, tuer dans la rue, impunément, des gamins de 9-10 ans qui jouent au ballon en Cisjordanie, à Beit Jala, à Ramallah, à Khalil, à Jenin. Comment on peut laisser faire ça? Je ne comprends pas, ça me dépasse. Donc oui, effectivement, j'espère qu'il y aura un tsunami devant le Conseil européen pour que les dirigeants européens reprennent la main. Parce que quoi qu'il en soit, s'ils reprennent pas la main, ben c'est les États-Unis qui vont prendre la main. Et ils sont bien partis. Et alors, on nous parle de l'Europe et de Maastricht. Moi, je veux bien, mais... Voilà. Donc oui.
Et tout au long de ces étapes, hein, de cette cette marche pour la Palestine, vous allez aussi rencontrer des élus locaux, des élus français, avant d'en arriver à l'Europe. Ça va être important aussi d'avoir la parole politique aussi de la France, puisqu'on l'entend pas beaucoup.
Effectivement. Donc à chaque ville-étape, il y aura des rassemblements avec des projections de films, des témoignages, des lectures de témoignages de Palestiniens, des débats. Avec la population locale et avec évidemment les élus, et on espère que ces personnes-là, notamment les élus, se joindront à cette marche pour faire entendre la voix des Palestiniens et que enfin l'Union européenne s'intéresse au cas palestinien comme elle s'est si bien intéressée au cas ukrainien.
Et c'est pas simplement pour défendre les droits palestiniens, c'est aussi pour défendre le droit des Français d'être solidaires. La France, quand même, c'est le pays de la Révolution, ne pas
des
oublier
droits
de droits de l'homme, quand même. C'est Stéphane Hessel, il serait là aujourd'hui, et les indignés, ils marcheront pour Gaza, ils marcheront pour la Palestine.
Ça serait les mots de la fin. Merci infiniment,
merci,
Nora Ramchaoui.
Merci
à vous, Rimja, pour tout cet engagement. Marchons pour la Palestine, effectivement. On va donner rendez-vous aux auditeurs depuis le 20 janvier à 13h, place de la République, pour une arrivée à Bruxelles,
le 1er février.
Voilà. Juste un mot encore, pour finir. On a un téléphone, ou un mail, ou comment vous contacter?
Oui, je tiens quand même à rappeler que vous allez pouvoir nous suivre, suivre la marche sur Instagram notamment. L'adresse, c'est collectif Marche pour la Palestine, MPLP. Collectif MPLP.
Marche pour la Palestine.
Voilà.
Merci à toutes les deux d'être venues ce dimanche matin à Beurre FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.